Maghrébine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Déribine musicale cette semaine, on va puiser dans l'énergie noire d'un duo. Énergie noire, c'est son nom. Et nous allons rencontrer l'un des deux membres de cette formation, Nicolas Péor. Il est saxophoniste, il vit à Quimère. C'est là que nous l'avons enregistré en cet été 2020.
De par l'instrument que je joue, que j'ai commencé à jouer assez gamin en fait, qui est le saxophone, et de fil en aiguille, forcément, c'est un instrument assez récent à l'échelle de l'histoire de la musique. C'est un instrument qui a un peu pris son essor avec le jazz au début du 20e siècle, et donc du coup, quand on joue de cet instrument-là, on est amené à écouter cette musique-là.
Oui, le saxophone, c'est d'abord un instrument de jazz.
C'est pas d'abord un instrument de jazz, parce que ça a été inventé, on va dire, au mi-temps du 19e siècle, à une époque où il y avait, donc ce qui fait que c'est dans l'organologie, c'est un des instruments les plus récents en fait. Plus récent que ça, il y a le synthétiseur, mais non, pas spécialement. Ça a été pas mal inventé pour les fanfares et tout ça, alors notamment parce que les violons dans les fanfares, ça marchait pas pour plein de raisons, ça n'aime pas l'eau, etc. Ça porte pas trop au niveau du son, mais il se trouve que c'est dans la musique classique, en fait, on en trouve peu. Il y en a un peu chez Berlioz, mais pas trop, et en fait dès le début du 20e, c'est les Noirs américains qui ont récupéré les stocks de saxophones et qui sont servis pour faire toute la belle musique qu'ils ont fait après pendant maintenant plus de 120 ans.
Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans cet instrument-là?
Oh là, ça c'est les trucs de gamin qu'on peut pas trop saisir. C'est-à-dire moi mes parents, ma mère notamment était assez branchée pour que je m'initie à la musique. Et puis j'ai un souvenir assez précis quand même de voir un saxophoniste, et je me dis bon voilà, comme pas mal de gamins, je pense l'instrument il est esthétiquement il est assez rigolo, donc je pense que ça vient juste de là. Et puis il se trouve que je m'y suis mis, puis que ça a marché pour moi. Enfin j'ai gardé cet amour de l'instrument.
Et donc du jazz. Alors le jazz, comment est-ce que vous y êtes entré, par peut-être des grands noms, je sais pas.
Ouais, alors moi j'ai eu la chance d'avoir un super prof de saxophone qui s'appelle Jean-Luc Preneta, qui est maintenant à la retraite, qui m'a fait accéder à ça via un ensemble de saxophones qu'on avait à Quimper, au conservatoire de Quimper à l'époque, où on avait une bonne classe assez dynamique avec des gens de mon âge à peu près, et du coup en fait lui a provoqué pas mal de choses en invitant des musiciens, notamment des jazzmen et tout ça, sur des projets un peu de longue haleine, donc ce qui fait que j'ai commencé à la pratiquer par ce biais-là assez tôt, à l'adolescence, autour de 15-16 ans peut-être, voilà. Et puis après moi très tôt je me suis aussi mis à faire mes propres groupes que j'avais envie de faire. Il y avait en m'intéressant à la musique, au fur et à mesure on a envie de faire la même chose que les chansons qu'on aime bien écouter, et de fil en aiguille je me suis retrouvé à faire cette musique-là, mais après, sans vraiment faire un cursus jazz comme ça existe maintenant dans les conservatoires. Moi, j'ai quitté après le conservatoire assez tôt, à 18 ans, et puis après, le jazz a continué. Le jazz, mais pas que. Hein, le jazz, c'est un mot qui est assez...
On va y revenir.
Ouais. Ouais, mais voilà, en tout cas, monter des choses, et puis à rencontrer des gens, jouer dans les groupes de copains, etc., etc. Et puis après aussi... via des stages aussi, je suis allé un peu à droite à gauche pour préciser ma pratique, pour rencontrer des musiciens qui savent jouer cette musique là et puis une certaine esthétique aussi qui m'a intéressé assez tôt, début des années 2000, sur une certaine musique, et voilà, comme ça.
Qu'est-ce que vous écoutiez? Ouais,
bon, alors j'ai écouté plein de choses, hein, mon premier choc musical c'est pas du jazz à proprement parler, c'est Jimi Hendrix, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Après il y a eu Miles Davis, toute la période électrique de Miles Davis qui m'a, pareil, que j'ai beaucoup bossé. Et puis le free jazz, j'ai commencé à écouter beaucoup de free jazz et tout ça, et puis la claque définitive que j'ai pris et qui a vachement orienté après ce que j'ai fait derrière, c'est l'écoute de Steve Coleman, qui est un des grands maîtres de la musique de jazz, si on veut, mais disons la musique noire américaine de nos jours. C'est quelqu'un qui a 60 d'années maintenant, et qui a vraiment révolutionné les choses à partir des années 80, et que j'ai eu la chance de rencontrer il y a une dizaine d'années. Il était venu une semaine à Brest, et voilà, ça a été quelque chose d'assez important dans mon parcours, puisqu'après j'ai vraiment orienté beaucoup de mes projets, ma façon de travailler dans ce biais-là en fait. I'm gonna go get some more. j'ai grandi ici, donc les premiers groupes, alors les Coyotes à l'époque, c'est mon groupe d'ado, hein, y a le nom d'ado, où là j'ai commencé à prendre moi la main aussi, à driver les choses, donc ça, de prendre ces responsabilités-là, ça fait avancer aussi dans le boulot, de se dire que bah, je suis responsable de ce que je joue, mais il faut que j'essaye de faire en sorte de transmettre des choses aux copains et tout ça. Et ensuite, après, une autre marche qui a été importante, c'est quand je suis rentré dans le Lorient Big Band, qui était un peu le Big Band en Bretagne, donc j'y suis rentré en 99, enfin j'étais jeune, et donc ça a été une grosse expérience aussi. Et puis après, voilà, comme je suis parti sur Rennes et tout ça, j'ai joué dans différents groupes. Après, on va dire qu'à l'heure actuelle, j'ai trois groupes maintenant. Après, comme je disais, mais je suis sur des choses de longue haleine. J'aime pas trop papillonner. Donc, j'ai trois groupes qui durent depuis un certain temps. Il y a un groupe qui s'appelle Oco, qu'on a monté avec des copains brestois en 2006. Donc, ça, voilà, c'est un groupe qui a bientôt 15 ans. Il y a un autre groupe qui s'appelle The Coup, avec des copains qui sont à Paris. Donc là, ça fait, ouais, on l'a créé en 2012, donc ça fait déjà 8 ans aussi. Et puis, donc, il y a Énergie Noire. Énergie Noire, c'est un peu plus récent, mais ça fait déjà 6 ans. Donc, c'est ce qui est pas mal, parce que c'est dans le milieu, c'est dur d'avoir des projets de longue haleine. Souvent, on fait un coup, un disque ou deux, et puis et ça s'essouffle. Moi, j'aime bien continuer à creuser le sillon pour faire avancer les choses avec les gens, parce que j'estime que plus on se connaît dans cette musique-là, où on aimait beaucoup. Beaucoup improvisé. Plus on se connaît, et meilleur on est, et meilleur la communication est meilleure, la musique est meilleure. Du coup, c'est la façon, en tout cas, dont j'envisage les choses.
Vous pratiquez une musique différente d'un groupe à l'autre, enfin, ou est-ce que grosso modo il y a une cohérence quand même?
Et ouais, alors d'une certaine manière, je pourrais répondre que je fais tout le temps la même chose. Et c'est-à-dire que mon fil conducteur et ma façon, en tout cas, de me placer dans la musique reste à peu près pareil, sauf que je joue ça avec des gens différents, donc la musique évolue complètement différemment, parce que c'est des gens qui n'ont pas le même background, qui n'ont pas le même son. Donc ouais, c'est une façon de pratiquer, de garder une pratique qui a un peu tout le temps la même, même si forcément il y a des choses à la marge qui vont changer, mais de manière totalement revisitée et différente, puisque je suis avec des gens différents et aussi des groupes différents. Au cours, on est en trio, c'est guitare électrique, un peu teinté rock'n'roll, un peu méchant, avec batterie, c'est un groupe un peu garage, on va dire. Avec The Coup, on est sur quelque chose de différent, c'est basse, batterie, trombone, sax, donc ça génère un truc différent. Et puis Énergie Noire, c'est juste un duo où je suis au saxophone avec Vincent qui est aux machines, donc forcément le rapport aux choses, au son, et pas du tout le même dans ces trois groupes-là.
Alors, Énergie Noire, on va dire, peut-être c'est la version la plus électro, peut-être, de votre jazz, quoi, forcément.
Forcément, parce que c'est la seule où il y a des machines, en fait. Hein. Même si forcément, dans The Coup, par exemple, Nico Bauer, le bassiste, il aime bien jouer avec beaucoup d'effets et tout ça, mais ça reste plus dans l'ornementation, on va dire. Alors qu'en effet, dans Énergie Noire, la machine, en fait, représente un orchestre quasiment, et avec de multiples possibilités. Après, on est dans l'électro. C'est un terme qui est un peu comme le mot jazz, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Et donc, quand on dit électro, on a vite fait penser des basses régulières. C'est pas tellement dans ce là que ça se joue pour nous, même si on s'autorise quelquefois un petit pas du côté de la jungle ou des choses comme ça, mais on est dans des choses un peu plus expérimentales, quoi.
Pourquoi vous avez voulu travailler ensemble avec Vincent Rhodes? Enfin, vous pouvez nous le présenter peut-être un peu aussi, et puis nous expliquer Énergie Noire, la genèse.
Ouais, la genèse. Eh ben, Vincent, on s'est rencontrés il y a un peu moins de 10 ans au sein de l'ensemble Nautilis, dont on faisait partie, qui est un ensemble de musiciens à Brest. Bon, voilà, on s'est apprécié humainement déjà, ce qui est le plus important, je pense, quand on monte un projet. Et puis, on ne sait plus musicalement l'un et l'autre, et on s'est aussi interrogé l'un à l'autre sur nos pratiques, sachant que moi je comprenais absolument rien à ce qu'il faisait, et lui, inversement, comprenait non plus rien à ce que je faisais. Donc voilà, on a commencé à bosser ensemble. On a eu la chance, par le biais de Nautilis, en fait, on est parti à Chicago, parce qu'à l'époque il y avait un partenariat, en fait, entre la ville, un des échanges, on va dire, plus qu'un partenariat, entre des musiciens de Chicago et puis des musiciens de l'ensemble Nautilis. Et du coup, il se trouve qu'on est parti à Chicago pour, je sais plus, 10-15 jours. Et en fait, ça a été un peu l'acte de naissance du groupe, parce que jusque-là, nous, on n'avait jamais vraiment joué, on s'était vu, on avait fait des sessions. Et puis là-bas, on est allé, on a rencontré des musiciens, on a joué, et puis on a enregistré notre premier disque. Et puis voilà, depuis, on tire le fil de ça en interrogeant nos pratiques et tout ça. Et le premier disque, il est un peu loin de ce qu'on fait maintenant, parce que ça fait 6 ans, ils sont passés. Et puis, pratique s'est vachement affinée depuis, mais donc voilà, là, c'est un peu la genèse. Et Vincent, du coup, pour le présenter, c'est un musicien qui joue dans plein de choses différentes. Il est dans Énergie Noire, il est aux machines, il est aussi guitariste. Et bon, c'est quelqu'un qui... Alors, je vais faire sa biographie, je ne me permettrai pas, mais bon, en tout cas, il va, c'est quelqu'un qui fait de la techno aussi, pure, sous le nom de Upwelling. C'est très, très bonne techno, qui travaille aussi pour la danse, qui travaille sur plein de choses. Il a beaucoup fait de reggae aussi. Et voilà, et puis en même temps, il connaît beaucoup... très bien le jazz, c'est quelqu'un qui connaît très bien la musique d'une manière très, très large. Il a une super oreille, vraiment. C'est quelqu'un qui a une oreille très fine, en fait, et puis qui est très imaginatif. Parce que dans les choses qu'on fait dans l'énergie noire, il y a beaucoup de choses qui reposent, en fait, sur des idées qu'il a, et des choses que moi, que je ne peux pas imaginer parce que je n'ai pas les mains dans le cambouis de la machine et je connais pas les potentialités de la machine. Et lui arrive à trouver des... Voilà, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a de la ressource en termes d'idées.
Notamment... Donc, je comprends que vous composez tous les deux pour Énergie Noire, c'est ça, hein?
Alors, on peut composer chacun dans notre coin. Il y a des morceaux qui sont signés par Vincent, d'autres qui sont vraiment signés par moi. Et puis, il y en a d'autres qu'on fait à deux sous forme... Alors, ça peut être sous forme de cadavre exquis. Ça peut être aussi le fait que... Il va composer, on va dire, la mise en œuvre des morceaux. Et moi, je vais apporter des éléments à moi pour faire circuler tout ça. Sachant qu'après, même, c'est tout le temps un peu le cas, que ce soit lui ou moi qui amène un morceau. Après, on réfléchit à la façon dont on va pouvoir développer les choses, comment on va communiquer. Puisque l'idée, c'est surtout pas d'avoir un sax qui joue sur un playback. Il faut qu'on puisse avoir le maximum d'interaction entre nous. Donc tout ça, c'est des choses qu'on discute, qu'on met en œuvre. Et du coup, il y a, notamment sur le dernier disque, il y a beaucoup de morceaux, en fait, qui résident vraiment sur l'idée, en fait, c'est l'interaction. C'est dire, bah tiens, on va utiliser cette façon de faire pour développer du son ensemble. Jazz, en fait, moi, j'aime pas trop, parce que y a le fait que des gens comme Duke Ellington ou John Coltrane, ou des gens qui sont parmi les plus grands représentants de ces musiques-là, rejetaient ce terme-là. Et donc moi, en tant que blanc, breton, machin, je vois pas en quoi... Si ces gens-là disent que c'est pas un bon terme, j'aurais tendance à les croire. Après, il faut bien nommer les choses, donc voilà, jazz, ok, peut-être on peut l'accepter. Le problème, c'est que le jazz, si on dit jazz, pour les gens, ça résonne comme tout, sauf ce que c'est, en fait. Et notamment la diversité, c'est comme si on disait rock, je sais pas, téléphone, c'est du rock, corne, c'est du rock. Pour moi, c'est pas la même musique. Pour le jazz, c'est plus vaste que ça encore, puisque c'est une musique qui depuis sa naissance, en fait, se nourrit de plein d'influences, qu'elle soit de la musique classique au rock, maintenant à l'électronique, aux musiques du monde et tout. C'est une musique qui se nourrit de tout, le jazz, donc ça veut pas dire grand chose, quoi. Moi, j'aime pas le jazz en soi. Il y a des choses qui sont classées dans le jazz qui m'ennuient profondément, et inversement. Enfin, donc après, pour qualifier notre musique, nous, on est... Moi, je mets beaucoup d'entrain à travailler autour de dans des cadres un peu sophistiqués, complexes, dans des choses qui sont très contraignantes en termes notamment rythmiques. Et ouais, je m'astreins à travailler ça parce que ça permet de jouer d'une certaine manière. On est obligé d'être toujours concentré sur les choses. Je trouve, et ça crée des points de communication aussi dans les groupes dans lesquels je peux pratiquer ça, parce que la musique, elle est très exigeante, et le but du jeu, c'est d'être dans ces contraintes qui sont très fortes, et au fur et à mesure de la pratique, de trouver le maximum de liberté dedans, en fait. C'est-à-dire ne plus être contraint par des formes, par des choses comme ça, mais d'être contraint juste par la microstructure des choses, et puis de pouvoir après être le plus libre et improviser au maximum, en fait, là-dessus, mais sur quelque chose qui existe, quoi. Donc c'est un peu ça, comme ça, que je pourrais définir la façon dont je pratique, la façon dont je pense quand j'écris aussi.
Ce que vous écrivez, c'est plutôt une rythmique, et après vous... Enfin... J'essaie d'imaginer, hein. Par exemple, ne serait-ce que l'enregistrement d'un album, s'il y a de l'impro, comment ça se passe, quoi, enfin...
Quand il y a de l'impro, pour enregistrer, il faut essayer d'être dedans tout de suite, parce que c'est le danger quand on enregistre cette musique-là, c'est que tout ce qui est écrit est bien. Bon, alors nous, on est deux, donc c'est pas trop lourd, mais si on fait ça en sextet, je l'ai fait, par exemple, j'ai enregistré il y a 3 semaines dans un sextet, si tout est super, mais qu'on fait un solo donc improvisé qui est pas bon, c'est toujours dur de dire au gars, moi j'aimerais bien la refaire, parce que la version est super, mais mon solo il est tout pourri. Donc voilà, mais du coup pour nous, c'est pas un problème, c'est le jeu. J'aime bien, en ce qui me concerne, en tout cas, parce que Vincent lui propose aussi d'autres choses, puisqu'on peut parler de deux choses vraiment différentes sur le disque. Il y a des choses, par exemple, où ça va être une courte séquence, peut-être quelque chose qui va une séquence qui dure quelques secondes, peut-être 10 secondes, dessus, il y aura un truc que j'appellerais une écriture verticale, c'est-à-dire que sur cette séquence de 10 secondes, j'ai plein de choses possible que je peux jouer, qui vont rentrer ensemble. Et donc l'idée après, ça va être de circuler là-dedans. C'est comme s'il y avait une grande grille, en fait, sur laquelle j'essaie de me déplacer. Après, on peut faire des choix aussi d'arrangement préalablement, en disant on va faire sonner plutôt ça à ce moment-là. C'est pour ça que sur le disque, par exemple, le premier et le dernier morceau sont les mêmes, c'est Breast in Peace. Pour le coup, c'est un morceau qu'on a composé tous les deux, et qu'en le travaillant, on s'est rendu compte qu'il y avait suffisamment de choses dans ce morceau-là pour faire deux morceaux différents, en fait. Alors qu'on joue on est sur la même trame, mais comme on a plein de propositions possibles, faire sonner plutôt une batterie ou l'autre, parce que par exemple sur ce morceau-là, il y a 3 batteries qui existent, qui ne tournent pas forcément ensemble, mais on peut faire entendre des accords, on peut faire entendre quelque chose de plutôt modal ou quelque chose de... Voilà, ça c'est ce qui permet en tout cas de donner de la liberté aussi avec quelque chose qui est assez court, en fait, et puis de pouvoir rendre les choses à chaque fois différentes. On peut décider de jouer des choses, de ne pas les jouer, et puis ça va faire que le morceau n'est pas le même, en fait, on n'entend pas les mêmes choses. Et surtout, ça nous permet aussi en live de pas être dans la redite et de pouvoir se faire des trucs qui fait qu'on va jamais faire le même concert, et ça nous intéresse pas mal aussi. C'est-à-dire que moi j'ai assez de mal avec l'idée de faire du fonctionnariat musical, c'est-à-dire à jouer le même concert, mais j'ai pas de problème avec les gens qui le font, il y a des gens qui le font très bien, mais moi ça m'ennuie en fait assez vite, donc j'aime bien la surprise, même si c'est parfois plus dangereux, parce qu'il y a des moments il y a des moments de solitude aussi par moment, parce que quand on est sur des musiques exigeantes et tout, si au moins le moindre faux pas peut se payer assez cher, donc mais c'est le jeu, et bon, genre ça me va. Thank you.
Pour en revenir à la composition, enfin l'acte de composer et d'enregistrer, enfin il y a beaucoup de post-production après ou pas tant que ça finalement ?
Eh ben pour ce disque là, pour le dernier, pas tant, parce qu'on a vraiment joué les trucs en live, parce que voilà, une fois de plus on interagit, hein, c'est pas comme si Vincent il mettait play sur son ordinateur et puis qu'il n'avait plus rien à faire. On improvise ensemble les choses. Donc en fait, grosso modo, voilà, on a passé 2 jours dans ma cave et puis on avait le son. Après, il y a des choses forcément qui vont... Vincent va retravailler des choses, bon, notamment par exemple ces sortes de paysages sonores, si on doit mettre une cloche ou machin. Aussi, ça peut peut-être rajouter un effet, retraiter un peu du son et tout ça. Mais grosso modo, la musique qu'il y a sur le disque, c'est de la musique qu'on a enregistrée comme ça sur le moment. Voilà. Et puis après, comme pour tous les disques, on retravaille un peu, il faut remixer, peut-être enlever une phrase qu'on n'aime pas, ces petites bricoles. Mais en gros non, c'est du live. Quoi.
Donc 2 jours.
Je crois qu'on a dû le faire en 2 jours. Après, il y a un morceau, alors on n'a pas mis sur le disque, je crois qu'il y a un morceau dont on n'était pas satisfait, qu'on a refait à Rennes, dans le garage d'un copain.
Mais ça sonne pas du tout pareil, du coup.
Ça va. Comme l'ordinateur, lui, qu'on l'enregistre dans un gymnase ou ailleurs, ça change pas. Après, le sax, bon, on a le même micro, et donc ça s'entend pas. On est dans un endroit aussi cheap que ma cave, donc ça marche.
Et la gestation, c'est combien, sinon, avant l'enregistrement ?
Question un peu compliquée, ça dépend. Parce que là, en plus, on l'a enregistré il y a déjà 2 ans, donc la gestation, je ne m'en souviens pas des masses. Grosso modo, c'est un moment où on se dit qu'on a des nouvelles choses, des morceaux qu'on a déjà joués, peut-être depuis quelques temps, depuis 6 mois, et puis d'autres qu'on n'a jamais joués, qu'on va faire sur l'instant. On se dit, on rentre le truc aujourd'hui, et puis on verra si c'est bien.
Vous l'avez enregistré il y a 2 ans.
En fait, nos deux premiers disques, on les avait sortis différemment. C'est-à-dire que le premier, il est sorti en une sorte d'autoprod. En fait, il n'a pas vraiment de label. Le second, on l'a sorti sur le label Ophoron Records. C'est le label monté par Denis Guéguin à Brest, sur lequel moi j'ai sorti avec The Coup, avec Oko, avec d'autres groupes. J'ai sorti des trucs là-bas. C'est un petit label artisanal et tout qui est super. Et puis là, on s'est dit pour le allez, on va tenter le coup. On va envoyer du mail à droite à gauche et pour voir s'il y a un label en France ou à l'étranger qui est intéressé par ce disque. Donc j'ai envoyé des trucs même à Los Angeles et tout, j'ai peur de rien. Personne ne nous a répondu forcément, parce que c'est compliqué de sortir des disques à l'heure actuelle. Et les seuls qui nous ont répondu, du coup, c'est le label 11h11. Et il se trouve que c'est avant d'être un label, c'est un collectif de musiciens. Et c'est des gars qu'on connaît un petit peu pour avoir joué avec ces éditions à Paris. C'est des gens avec qui on a eu l'occasion de jouer dans différentes formules, pas avec Énergie Noire, mais. Et puis eux, on nous ont répondu et en disant, bah ouais, pourquoi pas, quoi. Nous, ça nous branche, on peut travailler ensemble là-dessus. Donc du coup, donc il faut presque un an pour en arriver là déjà, pour que des gens nous disent c'est ok et tout ça, parce que comme c'est des trucs collectifs, ils sont obligés d'en parler. Et puis après, une fois que c'est acté, il faut que ça marche dans leur calendrier à eux, parce qu'ils sortent d'autres disques. Donc voilà, ça nous amène en mai. Et c'est pas mal, il est sorti en mai, parce qu'on a failli le retarder à cause du confinement, du Covid, machin. Il a été question de repousser la sortie, puis on s'est dit, bon, étant donné qu'on n'a pas vraiment d'actualité, qu'on joue pas, c'est bien, il se passe un truc pendant le confinement, et on se dit qu'on est encore musicien, c'est pas mal.
Bah oui, alors là forcément, la question, comment ça se passe pour vous, là, cette période, et puis pour vos comparses
c'est compliqué, et puis on sait pas trop comment ça va évoluer. Bon, je pense qu'on n'est pas tous égaux non plus rapport à ça, puisqu'il y a des sans doute que pour certains ce sera plus ou moins compliqué que pour d'autres. Moi je joue beaucoup dans les réseaux bistrots et tout ça, et je pense que ça va être compliqué.
Peut-être moins que pour des gros festivals, enfin des c'est des esthétiques quand même comme les vôtres où il y a moins besoin de contact, il y a peut-être moyen d'avoir des petites jauges aussi, enfin.
Ouais, le problème c'est quand on joue ces musiques-là, c'est déjà vachement dur de jouer parce que justement, il y a marqué jazz dessus, les gens ils ont pas envie d'écouter de jazz.
Ouais, ça pourrait être une chance peut-être.
Peut-être, mais c'est de toute façon, c'était déjà compliqué avant, hein. Nous on fait, bon, moi pour le coup, je suis comme sur des musiques de niche et tout ça, il se trouve que je suis pas structuré, et ça c'est un gros point faible, c'est-à-dire pouvoir monter, avoir une asso, demander de la subvention, du match. Bon, c'est quelque chose que je sais pas trop faire moi, c'est, et puis bon, faudra sans doute s'y mettre, mais donc du coup ça fait que bon, le moi, ma musique, je la joue pas tant que ça, en fait. Avec les groupes disons, dans lesquels je suis impliqué vraiment, je la joue pas tant que ça. C'est pas facile. Et puis quand je la joue, c'est souvent dans des conditions assez. C'est rare d'être bien payé, etc., etc. Bon, après, c'est comme ça. Hein, donc, mais pour l'avenir, je sais pas. Je suis pas très optimiste vraiment. Mais bon, on verra. Je pense qu'on est comme tout le monde, sauf que comme on a une façon de fonctionner qui est un peu plus précaire, on est peut-être un peu plus exposé. On verra.
J'ai quand même l'impression que les esthétiques jazz, on va dire ça, pour faute de mieux, ont beaucoup beaucoup progressé en Bretagne.
Il y a du monde, hein. En Bretagne, de toute façon, il y a énormément de musiciens, de super musiciens, avec des gens qui ont plein d'idées. Aussi dans le réseau, toute la jeune génération, des gens là qui connaissent la musique bretonne, qui l'ont ouverte à plein de choses, au jazz, aux musiques du monde et tout ça. Il y a vraiment un super... Ouais, il y a des super musiciens dans le coin. Mais le problème, c'est que il y a une offre qui est monstrueuse, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font des trucs super bien, mais en fait, le nombre d'endroits qui programment, il se réduit comme peau de chagrin, quoi. C'est-à-dire pour quand on parle avec les gens qui sont de la génération avant moi, c'est des gens qui arrivent à faire à l'été 60 dates dans l'été en jouant jamais à plus d'une heure de chez eux, quoi. Là, c'est un peu moins le cas, quoi. Et puis il y avait moins de monde aussi, il y avait moins de musiciens. Et maintenant il y a, voilà, c'est ça. Alors c'est super parce qu'il y a vraiment des super guides, mais je vois autour de moi plein de super projets et puis des projets qui jouent trois fois, quatre fois et puis voilà qui tombent à l'eau faute de boulot, donc les gens s'épuisent et puis il faut passer à autre chose. Après moi c'est des fonctionnements qui me questionnent vachement, comme je disais tout à l'heure. Moi j'aime bien avoir un temps long dans des groupes et tout ça, mais par contre il faut faut de la conviction, quoi. Parce que il y a des moments on en a marre, on rame, quoi. Mais bon, voilà, je vais en prendre mon parti et puis tiens le coup, hein, ça va.
Vous avez pu entendre au cours de l'émission des extraits de Steve Coleman, Changing of the World, puis du dernier album d'Énergie Noire, Disclosed Motions, sorti chez 1111 Epsilon Soka Disc, des extraits des titres Fusako, Breast in Peace 1 et 2 et Magpie and Jackdaws.